Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbook Journal. Ebenezer International. Your station.
Il nous faut proposer d'écouter.
Il me semble que, bibliquement, il y a un besoin d'exprimer sa gratitude vis-à-vis de Dieu avec la meilleure façon qu'on a. Alors, si on n'est pas musicien, ne nous vachons pas. Si on n'est pas capable de
pour mieux comprendre la vie de l'Église de notre Seigneur, Ecclésiopod sur la RCEI, votre radio.
Chers amis à l'écoute, bonjour. Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre intérêt remarquable pour cette radio. C'est la même équipe qui est de retour avec une nouvelle édition d'Ecclésiopod, ce programme qui se plaît à vous informer de la vie de l'Église du Seigneur. Cette édition sera bien spéciale puisque nous y accueillerons l'artiste John Featherstone, musicien, compositeur et interprète, à l'occasion de sa tournée dans les églises pour des temps d'édification. C'est comme d'habitude votre podcasteur Franck Doristil qui a été à sa rencontre. Je vous souhaite d'ores et déjà une agréable écoute.
Dear listeners and friends of the Digital Gospel Journal, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, and I welcome you in this brand new edition of Ecclésiopod. I'm your friend podcaster Franck Doristil, with my wife Galen for this edition of Ecclesiopod, and our guest today will be Mr. John Featherstone, a Christian artist, musician, composer and interpreter. We had the possibility to meet him in his home studio based in Paris for a friendly talk about his ministry and the Church of Jesus Christ. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at the www.radioeben-ezerinternational.com www.radioeben-ezerinternational.com. You can also join us at our podcast site, where you will be able to download any episode that you want. Stay in there and pitch.
Juste avant d'accueillir notre invité John Featherstone, nous vous proposons ce morceau intitulé « Y'a pas photo », extrait de son album « Rien de nouveau ».
Ecclésiopod.
On nous ferait descendre d'un même arbre, faisant de l'homme un singe évolué. Mais à vrai dire, quant au si l'on devait choisir entre nous, y a pas photo. Je suis un chimpanzé, tout simplement génial. L'homme a beau me singer, rien ne vaut l'original. Je suis un chimpanzé, je reste sans égard. Malgré le respect dû à la famille, nous associer n'a rien d'un compliment. Homme de guerre, il s'entretue, leur crime prolifère, chez nous c'est du jamais vu. Je suis un chimpanzé, tout simplement génial. L'homme a trouve singé, rien ne vaut l'original. Je suis un chimpanzé, je reste sans égal.
Bienvenue sur la planète des singes. Ça fait du bien de sortir de la jungle un peu. Ça swing de partout ici. Détendez-vous. Pass the peanuts, would you?
To be like you, don't want to be like you, 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 because je suis un chimpanzé. Tout simplement génial, génial. L'homme a beau me singer, mais rien ne vaut l'original. Si bien normal, je suis un chimpanzé.
Je suis un chimpanzé. Tout simplement génial.
Reste sans égal, sans rival, phénoménal, un sacré animal.
Vous suivez Ecclésiopod sur la RCEI, votre radio.
Après ce beau morceau de notre invité John Featherstone, c'est maintenant le moment de l'accueillir. Après une courte introduction en anglais, le reste de l'entretien sera entièrement en français. Bonne écoute.
Yeah, John, it's a pleasure to have you with us on this program today. Who is John Featherstone?
John Featherstone is a working musician living in France, where he's been for the last 22 years. I grew up in England and trained as a teacher of languages and of music. I left that to become a full-time musician, and then 3 years after that moved to France, where I've been, as I said, for the last 22 years. Writing for myself, my own performances on a guitar. I play a seven-string guitar, quite a curiosity. And also bigger writing for choirs, for one work for two choirs, for example, and 16 instrumentalists and so on. I do a lot of work as an arranger as well, and as a musical director, and I produce other people's CDs as well as my own. I've done something like 14 CDs myself, but at least double that on working with other people.
You are working now on a project for the Christian charities called Degree. Can you talk to us a little bit about this
project? It's a project of presenting a new series of worship songs in French, written in French rather than translated, which is one of the problems in France, because there aren't enough professional songwriters. So a lot of things just translated very quickly from American. So writing 15 new songs to start the ball rolling, trying to aim at areas in the Christian expression in the church service that are not particularly covered at the moment. Things like repentance, things like the Last Supper, things like blessings and so on. There are songs in all these areas, but it was really an opportunity to try and fill some of the gaps that there are there.
Do I have a word of encouragement for our English-speaking listeners about this project?
Yeah, well, it's a project if you like that sort of music and you can speak some French, it might be of interest to you. But it's if you want to go on my website, johnfeatherstone.com, Featherstone Featherstone. You will find in English All the descriptions of what I'm doing, what I have done, and what I plan to do for the future. So that might be the easiest thing to do. But thank you for your interest, and thank you, Frank, for inviting me to be on this program.
It's a pleasure, Bruno. May God bless your ministry.
Thank you.
Monsieur John Featherstone, je vous remercie de nous accorder cette rare opportunité de permettre à nos auditeurs de découvrir votre ministère à travers cette émission spéciale Ecclésiopod. Et je vous souhaite en même temps la bienvenue sur les ondes de la Radio Chrétienne Ebenezer Internationale.
Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi.
Monsieur John Featherstone, je vous ai déjà reçu en 2010 dans l'émission Mykonak, un programme conçu pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître les artistes chrétiens, c'est ça le sigle. Mais pour nos nouveaux auditeurs qui vous écoutent en ce moment et qui vous découvrent également pour la première fois, qui est John Featherstone?
Alors, John Featherstone est anglais d'origine, né à Calcutta, mais ça c'est pour un clin d'œil de l'histoire. Mm-hmm. Je suis donc de nationalité anglaise, j'ai grandi en Angleterre pour la plupart de ma vie, mais voici 24 ans, nous avons déménagé en France pour continuer à travailler en tant que musicien engagé dans les églises, dans le partage d'un espoir que nous trouvons dans les pages de la Bible et que je trouve dans ma vie.
Il y a des choses que vous pouvez dire dans l'émission qui pour vous semblent être insignifiantes, mais pour nous ça a du poids. Né à Calcutta, John Featherstone, ça veut dire quoi exactement?
Bon, mes parents y étaient, ce n'est pas une coïncidence que je sois né lorsque mes parents y étaient, mais je crois que j'ai dû rester simplement un an là-bas. Mon père travaillait pour la Société Biblique Étrangère à l'époque, et voilà, donc j'ai un frère qui est né en Iran, un autre qui est né en Inde avec moi, et puis mon dernier, le dernier est né en Angleterre. Donc
vous venez d'une famille de missionnaires, une famille missionnaire.
Pas vraiment. Mes parents quand même étaient dès le départ engagés dans les églises. Mais non, ils n'étaient pas missionnaires. Ils étaient simplement employés, je crois, par la Société Biblique Internationale. Ils se sont trouvés là. Ma mère, je crois, elle travaillait aussi comme secrétaire dans une église aussi là-bas.
Donc c'est ce qui explique en partie votre attachement au Seigneur. La foi n'est pas un monde étranger pour vous, non?
Tout à fait. Alors ça explique en tout cas mes débuts dans la compréhension de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'ils m'ont amené à l'église, pas forcément de force, j'y allais docilement jusqu'à l'âge de 10 ans par là, où c'était quelque chose qui devenait de plus en plus concret, plus en plus interpellant. Je crois que c'était lorsque j'avais 11-12 ans finalement que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Lors d'un week-end organisé par un groupe biblique qui s'appelle The Crusaders. Alors ça fait mal de nos jours d'entendre les croisadeurs, mais en réalité ce n'était simplement qu'un groupe de jeunes où on étudiait la Bible. Et là, donc un monsieur est venu, il a prêché un thème que je connaissais déjà, mais qui n'était pas forcément devenu concret dans ma vie. Il a présenté l'idée de devenir chrétien comme genre de recommencer sur une page vierge dans sa vie. Et moi qui aimais beaucoup la papeterie, à l'époque, je me souviens, pour moi, à l'école, quand je recevais le nouveau cahier sans rature, eh bien, j'en étais très content. Et pour moi, ça a fait le clic dans ma tête, un déclic. Et c'est cette idée de fraîcheur, de nouveauté. Même à l'âge de 11-12 ans, j'ai compris que c'était nécessaire pour moi.
Vers 11, 12, 10, 11 ans, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ.
Voilà,
comment expliquez-vous cette prise de conscience? Vous avez réalisé qu'il était important de franchir ce pas, de prendre votre décision personnelle.
Oui, pour que ça ne reste pas simplement une tradition familiale. Et pour moi, c'était quelque chose de très, très personnel et très vrai. Et je ne peux pas dire depuis que je sois resté comme un ange dans tous les domaines, surtout dans la période de l'adolescence et les différents exploits qu'on se permet à cet âge-là. Mais me voilà encore aujourd'hui avec cette foi ancrée dans la parole de Dieu, cette foi qui m'a fait quitter mon travail d'enseignant en Angleterre pour devenir musicien, qui m'a fait quitter l'Angleterre pour la France et qui a fait que, voilà, je continue aujourd'hui. Je suis, je fais preuve de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite ou force du coude que je suis toujours là, mais je constate que Dieu a été véritablement... un Dieu de grâce pour moi.
Avant de tourner la page, pour passer à une autre question, pensez-vous qu'il est important pour chaque enfant qui est grandi, qui naît dans une famille chrétienne, de prendre lui-même à un certain moment sa décision, même si quand il devient adulte comme vous, il ne se souvient pas exactement du jour ou de la date, mais quand même ce pas, il doit le faire?
Alors, le pas doit être fait. Je le dirais comme ça. Ça veut dire que quelquefois, les gens ne savent pas, comme vous venez de dire, à quel moment le pas s'est fait. Mais ils savent maintenant où ils en sont. Pour moi, c'était clair et que je devais faire un pas. Et je crois que pour la plupart, c'est le cas. Mais je ne veux pas du tout dire, pour celui qui a une foi véritable aujourd'hui, qu'il faille passer par une expérience spécifique qui est devenue réalité pendant peut-être des années, je ne sais pas. Donc c'est possible de se retrouver chrétien sans quelquefois savoir trop comment on y est arrivé. Mais la chose est certaine, c'est qu'il faut y arriver.
Il faut y arriver. Et ceux qui ne se souviennent pas du jour, comme vous, de l'âge, de la période où ils ont pris cette décision, ils ne doivent pas se culpabiliser dans la mesure où ils se rendent compte qu'ils ont une bonne relation avec le Seigneur.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent l'émission Ecclésiopod et que notre invité est l'artiste chrétien John Featherstone. John, auteur, compositeur, interprète, comment est donc née cette passion, cette grande passion pour la musique qui vous a fait comprendre que vous seriez un musicien ou bien que vous auriez, que vous avez le don de musicien?
Je parlais tout à l'heure de ce groupe public qui avait lieu le dimanche après-midi. Je devais avoir, je ne sais pas, entre 8 et 15 ans, la période où je fréquentais ce groupe-là. Mon père m'avait acheté une guitare lorsque j'avais 8 ans. Alors j'avais déjà, je jouais déjà du piano à 6 ans, mais à 8 ans, il m'a offert une guitare. Et je me souviens, on était en train d'accompagner les chants. À ce moment-là, je sais pas, disons, j'avais 9 ans, je ne sais pas exactement. Et tout à coup, quelqu'un a commencé à jouer le chant avant qu'on soit prêt. Et j'étais entouré d'autres musiciens, et apparemment, mais je m'en souviens pas, mon père aurait repéré que j'ai dit aux autres, il est en train de jouer en do alors que nos partoches sont en ré. Alors, pour lui, c'était le premier jour, la première fois qu'il avait constaté que j'avais l'oreille absolue. Et effectivement, c'est quelque chose qui était là, il avait aussi cette oreille absolue, ce que ça veut dire finalement, savoir exactement quelle est la note qu'on entend et si elle est juste ou pas. Bon. Il avait ça, il n'avait pas vraiment exploité mon père, mais il avait ce don, ce phénomène. Et c'est souvent héréditaire, me dit-on. Alors voilà que ensuite l'école qui est venue après, c'était une école qui avait sa propre école de musique à l'intérieur de l'école, qui était une école, je dois dire, privée. Ça veut dire en anglais public school, c'est complètement loufoque, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc chaque trimestre, des concerts, des opéras, des performances de tout genre, différents orchestres. Il y avait deux ou trois orchestres, plus d'un big band, etc. Il y avait beaucoup. Donc finalement, j'ai grandi là-dedans. C'était complètement naturel. Et arrive le jour, décision, 17 ans, 18 ans, est-ce que je vais à la fac pour étudier la musique ou les langues? J'ai hésité, j'ai demandé à mon prof de musique, il m'a dit, il vaut mieux aller faire les langues. Je remplis le formulaire, comme quoi je m'orientais plus vers ça. Je vais voir mon prof de musique le lendemain, il m'a dit, vous avez dit quoi? Alors j'ai dit langue, comme vous m'avez conseillé. Il a dit, oh là là, mince alors, non, je voulais voir, je voulais vous tester. Déjà trop tard, mais je ne regrette pas. Ça veut dire que finalement, je suis parti à la longue en France, gardant la musique comme un passe-temps et aussi une qualification par la suite en enseignement. Je suis formé pour enseigner en français, allemand, mais ça fait un moment depuis que j'en ai parlé, et musique. Et donc avec tout ça, maintenant je suis en France, parle en français, jouant de la musique.
On peut comprendre que vous maîtrisez très bien la langue de Molière. On a même du mal à percevoir votre accent d'anglais, c'est difficile. Comment vous avez fait pour vous passer de votre accent, qui n'est pas un handicap, mais qui peut être constaté très facilement chez certains anglophones?
Peut-être justement cette oreille absolue, ça aide. C'est-à-dire détecter les sons et savoir les reproduire. C'est peut-être ça. Ma mère, quand même, était prof de français. Mon frère l'a été également, et donc je pense les langues, en tout cas pas forcément enseignées à la maison, mais les langues ont été encouragées à la maison.
Alors cette question d'oreille absolue m'intéresse, comment fonctionne quelqu'un qui a cette oreille absolue, à quoi ça vous sert comme musicien?
C'est très difficile de savoir exactement puisque je l'ai, et c'est difficile de savoir. Plutôt, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fonctionne sans. Non, je pense qu'on a chacun une oreille relative, c'est-à-dire je vous donne un do et vous devriez pouvoir me chanter un fa, mm-hmm. en relatif à, au do. Mais ça veut dire qu'en studio, par exemple, si je suis devant un saxophoniste, je peux lui dire, ton sol était un petit peu en dessous, ou bien ça rend plus rapide les transactions musicales. Ça permet également de déchiffrer les partitions assez difficiles parce qu'on n'a plus besoin de se situer par rapport à la note précédente, mais plutôt d'aller directement vers une note. Alors, ça veut dire également que je vais composer des harmonisations quelquefois que quelqu'un qui n'a pas du tout cette faculté-là, qui est quand même rare, hein, je dois dire, va trouver difficile. Puisqu'il y aura des intervalles trop compliqués à choper facilement. Donc, ça me permet de faire... Ça ne veut pas dire que je chante toujours juste, ni que j'agisse sans erreur, mais c'est une facilité, quelque part.
Donc, si quelqu'un vous joue, ou bien vous fredonne quelques notes, vous pouvez lui dire, voilà, vous avez fait telle note.
Oui, tout à fait. Oui.
Et, par exemple,
alors là... Alors à ce moment-là, je prendrai ma guitare et je jouerai. Mais tout à fait, on peut le faire, mais la voix humaine n'est pas forcément
juste.
Oui, c'est ça.
Voilà. Il y a plusieurs d'autres fréquences qui se mélangent.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que mon épouse me dit, par exemple, quelquefois, tu sais, la mélodie qui va comme ça, et puis elle le chante, et je dis, non, je connais pas. Et ensuite, je me rends compte que c'est parce qu'elle chante dans une autre tonalité. Ça me permet d'accorder ma guitare plus rapidement également.
Donc, quand il y a une note qui n'est pas juste dans un accord quelconque, vous la détectez rapidement, sans difficulté.
Ouais.
Donc, c'est l'une des utilités.
Mais n'importe quel musicien peut faire ça, mais... ça me permet d'aller directement vers une note.
Voilà une édition spéciale d'Ecclésiopod qui ne manquera pas d'intéresser les musiciens qui se branchent surtout sur tablature ou gospel plus ou double alternance, d'autres rubriques dans lesquelles nous jouerons des styles de musique un peu plus modernes, si j'ose dire. Alors, Monsieur John Featherstone, notre invité, avant de prendre notre première pause musicale, avez-vous été influencé par certaines personnes ou des maîtres du monde musical? Si oui, pouvez-vous nous en citer quelques-uns?
J'ai étudié, comme tous ceux qui font un parcours un peu classique, j'ai étudié bien sûr Bach, Et je dois dire que, sans blaguer, c'est un compositeur qui m'est resté vraiment tout à fait formateur jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai du mal à m'en défaire de certaines règles qu'il a un petit peu déclarées. Enfin, il n'a pas dit mot à mot, mais il a quand même installé certains critères d'écriture qui me sont difficiles maintenant à contourner. Bach, et ensuite, je ne sais pas, je fais un grand saut dans le 20e siècle, peut-être pour trouver du Britten ou encore 21e siècle. Maintenant, il est toujours en vie, c'est Arvo Pärt, qui est un compositeur minimaliste. Ça, c'est du côté classique, mais du côté rock, j'ai quand même grandi dans tout ce qui est Cream, je ne sais pas... le rock progressif m'a toujours fasciné, même s'il y avait des choses assez malsaines dedans, mais quand même il y avait aussi un désir d'explorer la jonction entre musique classique et musique rock. Et honnêtement, j'écoute tout. J'ai été à une époque assez influencée par Phil Collins. on va dire que c'est à peu près la forme physique, les cheveux et tout ça. Et à un moment donné, oui, on avait pratiquement tous les deux une queue de cheval. Moi, pas tout à fait, mais j'aurais pu. Et j'ai décidé de me raser la tête. Manque de peau. J'ai trouvé la prochaine émission où j'ai vu Phil Collins qu'il s'était rasé la tête aussi. Alors, je sais qu'il il se calque sur mon... comment dire, ma physionomie. Et bon, non, c'est des clins d'œil. Mais effectivement, de temps en temps, mes productions, enfin, sont plus basiques, mais il y a quelquefois des sonorités Phil Collins.
Je pense que les fanatiques de Phil Collins qui s'intéressent bien à lui, s'ils vous croisent un jour dans la rue comme ça, ils peuvent se jeter sur vous pensant que c'est leur artiste.
Hein. Il a fait un clip vidéo il y a longtemps de ça où j'ai eu même peur à regarder parce que je me voyais tellement. C'était assez... Bon, lui, il n'a pas le nez cassé comme moi, mais à part ça, on se ressemble pas mal.
Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous avez un album, là. Vous nous proposez quel titre pour cette pause musicale?
Ah ben, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est le numéro 2 de Grey, qui est donc un album qui est destiné à usage communautaire dans l'église, des chants de louanges. C'est un morceau où le texte est quand même, je dirais, revu et corrigé, mais du 18e siècle. Une demande que le Saint-Esprit vienne nous rendre visite lors d'un rassemblement. Au Saint-Esprit, descend.
Au Saint-Esprit, l'artiste John Featherstone à l'émission Ecclésiopode. Je vous souhaite une agréable écoute.
Ecclésiopode sur la RCI.
Ce qui nous
The Digital Gospel Journal, your station.
Oui, chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Ecclesiopod et que notre invité est bien l'artiste chrétien John Featherstone, compositeur, interprète, auteur. Alors, John Featherstone, il me semble que votre ministère se divise en deux grandes branches. D'un côté, des œuvres pour chorale, et de l'autre, un artiste qui s'accompagne à la guitare et au clavier. On dirait un artiste très acoustique, dans une certaine mesure.
Oui, alors, tout à fait. Hein, vous avez bien disséqué l'artiste. Ceci dit, c'est encore plus complexe que cela. Il y a d'un côté, effectivement, le guitariste, guitare à sept cordes, qui est ma guitare de prédilection, qui a été faite pour moi par un certain Andy Manson, qui est un des meilleurs luthiers européens. Je donne, par exemple, des concerts purement instrumentaux en présentant le pourquoi de l'écriture de ces chants-là, enfin de ces morceaux. Et ça peut être quelque chose qui n'a aucune signification spirituelle, en allant jusqu'à la reprise de « À toi la gloire », mais d'une version assez différente. Et aussi des reprises aussi de « Negro Spirituals », instrumentaux. Alors, il y a ce côté-là. Ce concert-là, il peut aller en grandissant, en intégrant à ce moment-là des chants qui parlent plus ouvertement, plus directement de la foi chrétienne, qui racontent une histoire de cheminement personnel, de spiritualité, qui posent des questions. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a un Dieu? Qui était Jésus-Christ? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce qu'il a dit, etc. Donc, il y a ce côté-là, l'auteur, compositeur, interprète. L'autre côté, effectivement, comme vous avez su l'évoquer, c'est plutôt une écriture pour d'autres. Une écriture, que ce soit dans des cantates sur la naissance, la vie et la passion de Jésus. Donc, ce sont ces trois œuvres qui ont été chantées par beaucoup de chorales en France et ailleurs, dans la francophonie en général. Et ensuite, Credo, qui était une œuvre en français d'abord et ensuite en anglais, une œuvre qui retraçait la confession de foi des églises. Passage était un autre CD. Là, à ce moment-là, un quatuor contre un soliste à la guitare à sept cordes. Donc, si vous voulez, c'est mon œuvre est divisée effectivement dans un désir de m'exprimer moi-même et aussi d'impliquer d'autres dans cette expression. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des choses que je veux à tout prix dire et je vais utiliser tous les moyens imaginables de le faire, du plus discret, du plus oblique. Imaginable jusqu'au plus direct, mais je veux à tout prix communiquer, parce que qu'est-ce que l'art si on ne dit rien? C'est simplement se faire plaisir. Donc, bien sûr, il y a du plaisir dans l'art, mais il faut aussi savoir communiquer quelque chose. Alors, quoi? Ça, c'est une autre question.
Et dernièrement, dans une interview avec un artiste que nous avons reçu dans une rubrique socio-culturelle, nous lui avons demandé, puisqu'il nous avait ouvert une petite porte, nous disant qu'il a la foi aussi. On n'a pas été trop profond là-dedans. Mais je lui ai demandé, est-ce qu'il a l'intention de présenter un album spirituel un jour pour exprimer cette foi? Il m'a dit humblement qu'il ne se sent pas en mesure d'écrire des textes sur la divinité, mais lui, il préfère écrire des morceaux, de la musique tout simplement. Est-ce que vous pensez que la musique, elle suffit pour transmettre ce message en tant que musicien? Quelqu'un qui vient dans un concert instrumental, il peut partir sans entendre des mots, juste de la musique comme ça?
Alors c'est compliqué parce que la musique instrumentale, j'ai toujours grandi en pensant qu'elle n'avait pas véritablement d'impact précis dans l'annonce d'un message. Et je suis d'accord. La musique par elle-même, elle laisse beaucoup plus libre qu'une parole dite. Mais quelquefois, les gens en ont tellement marre d'avoir des paroles qui les tabassent que quelquefois la musique peut offrir quelque chose en douceur qui passe sans rencontrer de barrière. Je dirais quand même que la musique sans introduction, sans texte premier, sans texte à la base, aura du mal à atteindre une cible très précise. On peut argumenter que chaque morceau écrit a un texte de base. Le texte de base, ça peut être mon expérience d'aujourd'hui, que je veux essayer de transcrire en musique. Alors à ce moment-là, je vais présenter la musique en disant, voilà, ça devait refléter, etc. Sans tout déballer. Mais à ce moment-là, on oriente l'écoute. J'ai fait un morceau, il y a quelques années de ça, qui s'appelle « Bee ». Et c'était un morceau qui avait pour rôle d'explorer quel était le centre de mon être, to be, être. Et alors j'ai pris une note qui est pour nous les Anglais un B, donc un si pour vous les Français, et qui était l'encre de cette musique-là. Et cette note-là, elle était, comme je l'explique chaque fois que je le joue, dans tous les accords, tous les passages, en allant depuis les passages les plus doux jusqu'aux passages les plus agressifs, la note est toujours présente. On ne la remarque pas forcément, mais elle est toujours là. Certains l'appelleraient la foi. Donc quelquefois, en orientant l'écoute, on a un message bien précis. Mais il y a aussi d'autres moments où c'est bien aussi de donner aussi un peu de bonheur aussi à l'auditoire. Donc c'est un mélange, c'est un choix personnel, mais de la question que je me pose souvent pour la musique chrétienne, c'est que dit la musique si on enlève les paroles.
Donc, on peut présenter la musique à un auditoire dans un concert, mais il faut quand même introduire cette musique par un texte ou juste quelques phrases pour permettre à l'auditoire de ne pas aller ailleurs au-delà de ce que cette musique voudrait dire.
Oui, mais en même temps, je crois que ça dépend de l'auditoire. Si on est invité à participer à quelque chose de culturel, je crois que là, il faut quand même être respectueux de ceux qui ont invité. Mais si on a la possibilité, absolument, on peut y aller.
J'aime bien cette précision que vous apportez pour les artistes chrétiens. Quand on les invite dans une activité socio-culturelle, par exemple, si la base même de cette activité n'est pas la foi, prendre le risque de présenter un message, un chant qui parle de la foi sans avoir été invité pour ça, à votre avis, ça peut faire plus de mal que de bien.
Ça pourrait, oui. Donc il faut faire attention.
Faire attention.
Mais il faut aussi gagner le respect de l'auditoire avant de le faire. Je crois que j'ai été coupable de ça dans le passé. Beaucoup sont coupables aujourd'hui de se cacher un petit peu derrière le fait d'être chrétien. C'est-à-dire, ça excuse pas mal d'erreurs musicales. Moi, je préfère, si vous voulez, me présenter en tant que musicien. Mais je suis un musicien engagé. J'ai ma vision de la chose. Et si les gens sont ouverts à la possibilité de l'écouter à ce moment-là, pourquoi pas le dire.
Merci. L'émission Ecclésiopode continue. Et notre invité, c'est M. John Featherston, artiste chrétien, qui effectue actuellement des tournées au niveau des églises pour enseigner ou apprendre à nos frères et sœurs des chants qui parlent de la foi, de l'adoration, la louange. Il va nous en parler plus largement. Frère John Featherston, vous êtes animé d'un farouche désir de communiquer les valeurs chrétiennes à votre auditoire. Comment avez-vous découvert cette foi? Vous nous en avez parlé dès votre enfance, mais est-ce que vos parents, eux, de temps à autre, ils vous parlaient de Dieu, ils lisaient des portions de l'Écriture sainte à la maison?
Oui, mais c'était surtout qu'ils nous laissaient libres aussi de découvrir pour nous-mêmes, et ils essayaient, je crois, ils essayaient de nous introduire dans des contextes où nous pouvions effectivement entendre parler de Dieu. Justement, ce groupe d'études bibliques, par exemple, l'église dans laquelle ils nous amenaient. Donc, ils étaient assez discrets. C'était une question de génération, je pense, de l'époque. C'était pas du tout Ils n'empiétaient pas trop sur le terrain des enfants, surtout lorsque nous avions un âge, enfin je vais dire à partir de 13 ans par exemple, c'était beaucoup plus à nous de nous débrouiller. Toujours, ils ont toujours été là pour nous encourager, c'est très clair, et nous encourager à aller de l'avant. Ils étaient fiers du travail que faisait leur fils, sans pour autant, je dirais, pouvoir le dire d'une manière enfin, aisément. Hein. C'était encore quelque chose d'historique, de générationnel. J'entendais souvent la bouche de d'autres personnes de leur âge que mes parents étaient très très fiers de moi et que c'est parce qu'à l'époque, voilà, ils ne voulaient peut-être pas que ça me monte à la tête. Mais, voilà. Donc je savais qu'ils étaient derrière.
C'est la sagesse, c'est bien, c'est très important dans l'éducation des enfants. Frère John Featherstone, je continue à vous appeler frère. Sens la présence de Dieu dans notre entretien, et puisque c'est un programme entièrement spirituel aussi. Il n'y a pas de problème. Actuellement, vous faites le tour des églises chrétiennes pour enseigner des chants de louange et d'adoration. Comment est donc né ce projet?
Alors, c'était une conversation avec un pasteur d'une église baptiste qui m'a confié un jour qu'il devait présider un enterrement d'un jeune qui était décédé dans un accident de moto. Alors, il était ému en me disant que les seuls chants... Et alors, ce jeune aurait aimé chanter vraiment des choses rythmées et modernes. Mais il me disait que pour le sérieux de l'événement, il n'a pas pu trouver des chants modernes dans la louange à la hauteur de la situation. Donc, il a été obligé de piocher dans les chants du 19e siècle. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas normal, ça. Pourquoi est-ce que... il n'y a pas un répertoire suffisamment large pour nous accompagner dans tous les moments de notre vie. Quand je regarde les psaumes, par exemple, voilà un psalmiste qui a une façon d'être très direct avec Dieu. Et il dit ce qui lui passe par le cœur, mais vraiment avec, quelquefois avec désarroi, avec colère même, avec joie, exultation, oui, mais il y a tout ce mélange. Alors, tout ce mélange-là, me semble ne pas être contenu forcément dans tous les chants dans le répertoire actuel. Alors, prétentieux peut-être, mais j'ai été encouragé quand même par différents pasteurs de me lancer dans l'écriture d'un nouveau répertoire de chants d'église. Alors là, on y aborde les thèmes qu'on aborde dans tous les autres chants, mais il y a aussi des thèmes un peu inattendus, par exemple la repentance, donc le désir de faire demi-tour et de revenir vers Dieu. Il y a aussi donc un chant qui demande à ce que Dieu vienne nous parler, puisque nous sommes comme une terre desséchée, ou bien... donc c'est ces chants qui confessent notre faiblesse. La faiblesse, on n'en veut pas dans les chants. Je caricature, hein. Mais la tendance serait de dire que nous sommes victorieux et que Dieu est grand. Mais on a plus de mal à trouver des chants qui parlent de notre petitesse et de notre défaite. Et pourtant, David en parlait. Donc, avant de pouvoir demander à Dieu de nous rendre à son image, eh bien, il faut reconnaître que nous n'y sommes pas encore pour l'instant. Et donc, il n'y a pas que ça. J'ai commencé par trois bénédictions. Enfin, c'est à la fin du CD. Mais là aussi, je me disais, pour que le peuple de Dieu parte à la fin d'un culte en paix, il n'en a pas tant que ça. Pour les chants de Sainte-Seine, par exemple, on peut en compter, mais voilà, on peut toujours faire plus. Je ne dis pas faire mieux, mais on peut faire toujours plus. Donc c'était l'idée d'essayer de combler certaines lacunes que non seulement moi, mais d'autres pasteurs, des pasteurs à qui j'avais parlé, m'ont conseillé de combler.
J'ai une question pour vous à ce sujet, mais juste avant, je dois vous féliciter pour votre courage d'avoir choisi un chant qui parle du Saint-Esprit. selon ce que j'ai constaté, beaucoup de pasteurs ont peur de parler de ce consolateur qui occupe pourtant une place si importante dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament.
Ouais. C'est vrai que la première fois que je l'ai chanté en public lors d'une conférence d'une fédération d'église que je ne nommerai pas, quelqu'un est venu, un des pasteurs, mais outré à la fin en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas théologiquement correct que de demander à ce que l'Esprit Saint vienne à notre secours. » Alors j'ai dit « Mais... » Excuse-moi, mais je ne lis pas la Bible de la même manière. Donc effectivement, c'est un sujet de controverse dans un sens. Et ça, ce qui me paraît dommage, parce que nous avons quand même tous besoin de savoir que Jésus est présent comme il l'a promis. Et il est présent à nos rencontres. Donc oui, alors ce qui est encore plus curieux pour ce chant-là, c'est que c'est un chant très très rythmé. Est assez envolé et dire que voilà, normalement le Saint-Esprit on en parle dans une voix très très feutrée, très soufflée, etc. Alors que là c'est guerrier quoi. Voilà, donc l'Esprit Saint est aussi à même de nous donner la force, la pugnacité de continuer notre vie de foi.
Que le Seigneur ouvre les yeux de ses serviteurs pour se rendre compte qu'ils doivent en parler, parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur,
oui,
c'est,
tout à fait, oui.
C'est l'ami qui remplace la présence physique de Jésus-Christ dans la vie du chrétien.
Ouais.
Et dans vos interventions, vos chants en parlent, vous en parlez aussi quand vous avez la possibilité d'intervenir vocalement, verbalement.
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que je croyais offrir simplement une quinzaine de nouveaux chants aux églises et que voilà, je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit par la suite. En réalité, je suis invité souvent dans les communautés justement pour présenter ces nouveaux chants. Alors comment est-ce qu'on peut présenter 15 chants, nouveaux chants dans un culte ? On ne peut pas, j'en conviens. Mais régulièrement, j'y vais et on va faire 8 ou 9. Alors, par un apprentissage, je dirais, un peu subliminal, où je chante la première strophe et le premier refrain, et donc sur le PowerPoint ou Open Song ou autre, on va voir le mot solo et ensuite on va voir le mot tous. Pour les nouveaux éléments, c'est solo et ensuite l'assemblée reprend. Et même si c'est un peu fatigant de le faire, les gens sont très très heureux justement de découvrir un répertoire qui permette d'exprimer son être intérieur à Dieu. Et c'est ça qui est important. Quand David disait dans le psaume 103 que tout mon être bénisse son nom, eh bien, il ne faut pas que ce soit du bout des lèvres. Il faudrait que vraiment ça vienne de l'intérieur. Vous savez, j'utilise souvent l'image du dentifrice. Hein, dentifrice dans un tube. Et en réalité, on peut prendre le haut du tube et pousser simplement le dernier bout de dentifrice du haut, mais en réalité, je pense que la meilleure façon de sortir tout le dentifrice, c'est d'appuyer vers le bas et remonter. et c'est ça, dans la louange, je pense qu'il est question d'aller jusqu'au très fond de notre être et d'exprimer avec tout notre cœur, toute notre âme, ce que nous ressentons pour ce Dieu qui nous aime.
Merci bien pour ces belles et bonnes précisions très utiles pour nos frères et sœurs qui écoutent cette émission. Non seulement nos frères et sœurs croyants, mais ceux qui sont à la recherche aussi, mais qui sont privés d'informations utiles. Je suis certain que ce programme les aidera dans leur recherche, dans leur quête spirituelle. John Featherstone, vous n'étiez pas le seul à mettre en place ce projet, sans doute. Est-ce un travail d'équipe et qui travaille avec vous sur ce projet-là?
Alors, d'abord, c'était les encouragements par beaucoup de responsables d'église. Ensuite, il y a eu trois autres paroliers. Gilles Boucomont, qui est pasteur à la Bastille, Jean-Luc Gadreau, qui est pasteur à Poitiers, et Alexandre Antoine, qui est pasteur, il se déplace maintenant, alors je ne sais plus où il est. Je crois qu'il a été à Pontoise, mais il va bientôt être à Versailles ou la région, il me semble. Alors, donc... C'est-à-dire, c'est un réformé, un baptiste et un pentecôtiste. Et moi, je ne dis pas ce que je suis. Je sais où je vais maintenant, mais voilà. Je suis très content d'avoir trois autres collaborateurs pour cela. Donc les textes sont de nous quatre. Ensuite, j'ai donc un fils qui est en Angleterre, qui est flûtiste professionnel, qui a une amie clarinettiste, une amie oboïste. Donc ça fait la section vent. Et là, un ami aussi saxophoniste était de passage à Paris il y a quelque temps, avant même que j'ai posé les premières pistes, mais sur une base mais très basique, il a fait le saxophone. Ensuite, moi, j'ai fait les guitares. J'ai d'autres amis en région parisienne qui ont été là pour les cordes, pour les chœurs, pour les différentes voix. Il doit y avoir en tout une douzaine de voix dessus. Et sans oublier aussi mon ancien arrangeur, Dave Cook, qui est en Angleterre, avec lequel je travaille sur tous mes albums. Donc, ensuite, j'enregistre tout ici à Paris et j'emmène tout ça en Angleterre pour le mixage et le mastering et le pressage. Et distribué par nos soins ici sur Paris, mais aussi par première partie avec Jonathan Boulet qui a un petit peu terminé le projet avec le pressage. J'ajouterai tout simplement en passant que sont venus à mon aide un ami pasteur en région parisienne à la fin qui a pré-acheté une centaine de CD et l'Église réformée de France qui a jugé bon de me faire un don pour compléter le projet pour que ces chants aussi soient publiés par les Églises réformées de France, ce qui est le cas.
Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas un artiste qui fuit le pasteur, qui essaye de s'imposer. Voilà, je suis l'artiste, j'ai besoin de personne. Vous êtes entouré de pasteurs.
Ouais, c'est. Je ne peux pas dire que la position d'artiste est souvent facile dans l'Église pour l'artiste, mais aussi pour le pasteur. Il y a des points d'interrogation qui sont là, qu'il faut négocier, il faut expliquer. Moi, j'ai un profond respect pour les pasteurs parce qu'ils ont un travail ingrat auprès des communautés. La différence entre moi et un pasteur, c'est que moi, à la fin d'un concert, je peux partir. Eux, ils doivent rester. Et c'est ça qui me sollicite le plus de respect, que l'être humain est assez compliqué par moment. Et le pasteur doit faire face à ça. L'artiste n'est pas forcément le gars le plus centriste en termes de personnalité. Il cherche toujours à savoir pourquoi, il cherche toujours à s'exprimer. Ça, c'est d'ailleurs ce qui le rend artiste. C'est-à-dire, un artiste qui ne ressent rien, qui n'a pas d'émotion forte, n'a jamais convaincu qui que ce soit par un chant. Donc c'est logique que nous sommes, des êtres avec pas mal de choses qui fourmillent à l'intérieur. Mais non, sans l'Église locale, c'est assez dangereux, quoi. Je veux toujours m'inscrire dans une démarche d'Église locale, même si, historiquement, ça n'a pas toujours été facile.
Merci pour ces précisions. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent l'émission Ecclesiopod avec notre invité John Featherstone, artiste chrétien, et je dirais même très engagé, puisque le travail que vous faites n'est pas seulement le travail d'un artiste, c'est comme le travail d'un ancien, d'un enseignant au sein de l'Église, non ?
Oui, il y a quand même ce côté prophétique, mais je ne m'appellerai jamais prophète. Mais quelquefois, dans la musique, parce qu'on a du temps peut-être pour réfléchir à ce qu'on veut exprimer, quelquefois on touche des choses qui semblent quand même avoir une importance temporelle, une importance c'est-à-dire pour le moment, et une importance très très sérieuse qu'on voudrait exprimer. Donc je pense que l'artiste chrétien a quand même une responsabilité d'accepter d'être un porte-parole pour Dieu. En toute modestie, c'est compliqué quand ça monte à la tête. Mais en réalité, non, je crois que Dieu demande aussi aux prédicateurs de prêcher, aux musiciens peut-être aussi de faire un peu la même chose, mais d'une manière plus subtile peut-être, plus artistique peut-être, plus culturellement adapté, parce que pas dans le contexte d'une église où les portes sont fermées, les gens viennent en connaissance de cause. L'artiste a un besoin, il me semble, il a besoin de gagner le respect du public et de lui apporter de quoi le nourrir positivement, que ce soit musicalement ou spirituellement ou les deux.
Je crois que vous êtes la personne, l'une des personnes les mieux placées pour me répondre à cette question-là que je vais vous poser. Un pasteur ou une assemblée qui se rend compte qu'ils ont un ou des personnes qui ont la capacité de faire de la musique, de jouer d'un instrument, de chanter au sein de cette assemblée, quelles doivent être leurs attitudes face à cette personne? Je ne dis pas qu'ils vont l'encourager à se prendre la tête, penser qu'il est un superstar, mais bibliquement parlant, est-ce qu'ils lui doivent une sorte d'encadrement pour l'aider à mettre en pratique ce don qu'il a reçu de Dieu, ou si j'ose dire?
Oui, alors je dirais que la règle numéro un, c'est ne jamais dire « vous avez un don, tu as un don ». Parce que même si c'est vrai, je crois que tu as un talent, hein, ça c'est bien, un don, ça cause des problèmes par la suite. Mm-hmm. J'ai vu tellement de fois que ça monte tout de suite à la tête. Donc, encourager, mais en vérité, sans exagération. Mm-hmm. Encourager, à se prendre au sérieux, à croire en soi-même, dans ce qu'on peut apporter. Donner la capacité aussi de bien jouer, c'est-à-dire quelquefois, peut-être en aidant avec l'équipement nécessaire, que ce soit l'instrument qui coûte très cher, l'encouragement à aller dans des cours de musique, l'encouragement aussi à s'équiper autre que son instrument, des recueils, de se renseigner. Encouragement aussi à avoir géographiquement dans l'Église une position visible. Avoir aussi peut-être un système de son adéquat. Il y a tout un tas de paramètres, effectivement, pour que les gens se sentent à l'aise. J'ai donné un stage récemment. Et j'ai été contacté par une jeune femme qui venait de la part d'une église. Alors dans l'église, j'ai téléphoné par la suite au pasteur pour savoir, enfin avant qu'elle vienne, pour avoir son opinion. Mm-hmm. Alors il disait qu'en réalité, cette femme-là, avec d'autres, chantait depuis l'assemblée. Mm-hmm. Il n'avait pas de place devant. Alors je me suis dit, oh là là, il va y avoir frustration. Il faut bien que je gère tout ça. Donc c'est souvent ça. Quelle est la place accordée à la personne pour exercer son ministère? Je dirais que la place la plus dangereuse, c'est être chanteur. Musicien avec un instrument, c'est une chose, mais la voix humaine, souvent, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'être affermie. Et c'est là où je trouve que les tiraillements se font le plus. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Donc, avant de dire « vous êtes la chanteuse ou le chanteur attitré de notre assemblée pour toutes les réunions parce que vous avez un don », ça, il ne faut surtout pas dire ça. Encouragez les personnes en connaissance de cause et en toute sobriété. Je crois que c'est important.
C'est important et je crois que ces conseils vont directement aux oreilles de nos auditeurs qui sont engagés dans les églises pour encourager les jeunes, les membres à qui le Seigneur a donné ce talent de musicien, de chanteur, de compositeur, etc. Nous allons prendre notre deuxième pause musicale. Deux questions avant. En quoi consiste cette démarche au sein des églises avec votre projet Degré? Et comment se sont passées les premières séances? Et enfin, le contact avec ces églises, ces responsables, se passe-t-il avec aisance ou sans aucune difficulté?
Je crois que ça se passe bien. Le fait est que ces chants exige un certain travail. Je dirais que c'est un peu quelque chose que je ne m'attendais pas à ça, parce que je ne voyais pas trop la difficulté. Vocalement, ça se passe très très bien. Les assemblées les chantent très bien. La preuve, c'est que j'anime, comme je disais, un culte de 8 ou 9 nouveaux chants et ça n'a pas l'air de poser problème. Là où ça pose problème, c'est surtout musicalement. Les musiciens doivent être d'une certaine compétence pour le faire, puisque en réalité, c'est comment expliquer ça ? C'est comme... j'imagine ça un petit peu comme un pédalo. On voit le pédalo, et c'est, ça c'est la, comment dire, c'est une image complètement idiote, mais c'est la voix de l'assemblée. Donc ce pédalo, il est sur l'eau et ça flotte très bien. Il y a des montes, ça monte, ça descend, etc. Mais pour que ça reste en place, il y a toute l'eau en dessous qui doit soutenir ce soutien en dessous harmoniquement. Qui est peut-être un peu difficile à avoir. Mais ça se passe bien dans les églises qui les ont essayées, et ça se passe bien quand je vais animer un culte. Mais je suis conscient que si on est simplement un guitariste qui a 3 accords à son arc, et pas 3 cordes, 6 cordes, mais 3 accords, c'est compliqué. Mais... ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un de travailler un peu. Et sur le site, degr.es, c'est un site espagnol, vous pouvez télécharger tous les accords, toutes les partitions nécessaires pour bien accomplir ces chants degré.
J'allais dire que beaucoup de vos chants, surtout les premiers albums que j'ai au studio de la RCVI, c'est pas facile à accompagner, c'est pas des chants 3-4 accords comme vous venez de le dire.
Oui, mais je n'ai jamais essayé de faire des chants à 3-4 accords. Avec degré, j'ai essayé à ce moment-là de le rendre à la portée des églises. Les cantates, c'est un bon exemple. Là, les cantates sont faites pour être chantées par les chorales d'église. Ça marche. Mais je n'ai jamais vraiment encouragé les musiciens à essayer de s'occuper de l'orchestration qu'ils croient être assez simple. Mais c'est ça qui est le rôle d'un arrangeur, c'est de faire croire que c'est simple, alors qu'en réalité, comme je disais, il y a beaucoup d'eau qui soutient ce pédalo, il y a beaucoup de dentifrice qui est poussé depuis le bas du tube, qui fait en sorte que le dentifrice sorte. Voilà, les images là que j'ai employées aujourd'hui sont des images complètement bizarres, mais voilà.
Ils savent que vous aimez compliquer les choses aussi, est-ce votre niveau?
Ah non, surtout pas. Non, j'aime bien simplifier, mais ça a l'air d'être compliqué, mais ça ne l'est pas. Quelqu'un, en entendant, c'est un des choristes d'ailleurs, quand il a entendu Credo, où il y a donc déjà 2 chorales, une chorale qui chante en latin et une chorale qui chante en français, en gospel, donc sur ces instruments également, il y a beaucoup beaucoup de notes qui volent. Je me souviens de la critique qu'on a fait de Mozart à un moment donné. Il y a beaucoup beaucoup de notes dans ce morceau et Mozart a répondu: il y a exactement le nombre qu'il faut. Pour moi, je ne complique pas la chose, même si j'ai une fugue d'un côté, une harmonisation homophonique de l'autre, même si j'ai tout ça en œuvre. Pour moi, Dieu peut être très très simple. C'est Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais qui nous offre le chemin du salut pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais Dieu n'est pas non plus simpliste. Et c'est ça que je veux dire. Je ne cherche pas la complexité du tout, mais quand même, pour refléter un Dieu infini, je crois que la musique, si on est capable de le faire, doit être une musique qui cherche un maximum de beauté pour rendre gloire au Créateur.
Quel est le morceau qui peut mieux expliquer ce que vous venez de nous dire là?
Dans degré, je ne sais pas, degré est un chant, viens nous parler serait le chant que je vous proposerai d'écouter. Un chant qui est relativement simple, il y a très peu d'instrumentation là-dessus, mais un chant qui demande à ce que Dieu vienne effectivement à notre rencontre. Donc dans la simplicité, mais en même temps, j'espère dans une dignité.
Dans la simplicité et dans la dignité. Viens nous parler, John Featherstone, à l'émission Ecclesiopod. Bonne écoute à toutes et à tous.
pour mieux comprendre la vie de l'Église.
Ecclésiopod sur la RCEI, votre radio.
Nous abordons la dernière partie de l'émission Ecclésiopod avec notre invité, le frère, l'artiste chrétien John Featherstone. John, quelle est selon vous l'importance de la louange et de l'adoration dans un culte? Et avons-nous des exemples bibliques pour soutenir ce point de vue?
Pour moi, Dieu a essayer d'inculquer dans l'Église l'idée de beauté et en même temps de vérité. Mmh. Et ces deux choses, lors d'un rassemblement, se combinent ou devraient se combiner dans l'expression artistique, dans le chant notamment. La Bible nous parle de faire un bruit joyeux. Alors, qu'est-ce qu'un bruit joyeux sur le plan complètement profane, on va dire que roter est un bruit joyeux. Je pense pas que Dieu avait ça en tête, mais ce qui nous permet de ne pas être des professionnels. Hein. Si le bruit est joyeux, il n'est pas dit que ce soit tout le temps la perfection. Mais en même temps, par ailleurs, nous voyons des exemples, et beaucoup d'ailleurs, d'organisation pour qu'effectivement les gens les plus compétents musicalement, les gens plus compétents artistiquement, même dans la construction des temples, etc., soient mis à l'œuvre. Donc, Il me semble que bibliquement, il y a un besoin d'exprimer sa gratitude vis-à-vis de Dieu avec la meilleure façon qu'on a. Alors, si on n'est pas musicien, ne nous vachons pas. Si on n'est pas capable de d'écrire toute une symphonie, mais qu'on peut simplement beugler, mais alors beuglons. et un musicien professionnel chrétien n'a pas le droit d'aller critiquer quelqu'un qui n'est pas capable de faire mieux. Mon rôle n'est jamais d'aller dans les églises en disant vous devez être des professionnels comme moi. Non, loin de là. Premier point, le bruit doit être joyeux, mais si on peut mieux faire, à ce moment-là, allons plus loin et apportons notre meilleur. Ça serait dommage, et ça, souvent ça a lieu, ça serait dommage que le musicien professionnel doive travailler chez lui pendant la semaine et que le dimanche matin, il donnerait quelque chose d'assez mièvre à Dieu. Non, il faut qu'on amène tout son art, tout son être, comme on a parlé du psaume 3, que tout notre être loue le nom de Dieu. Alors, si on est musicien, eh bien, à ce moment-là, on va l'exprimer avec tout ce qu'on a de mieux, parce qu'on est dans la présence de Dieu. La Bible est absolument remplie de notions aussi dans l'Ancien Testament.
Qu'attendez-vous de cette initiative musicale de Gré? Une prise de conscience de la grandeur de Dieu, un renouvellement spirituel?
Un élargissement, je crois plutôt, un élargissement plutôt de répertoire approprié dans le culte. Ce n'est pas pour remplacer, c'est simplement, comme je disais, pour élargir un peu. Donc, les gens qui ont acheté ces CD me disent que le mot fraîcheur revient souvent. Alors souvent les gens l'écoutent en allant au travail, en revenant du travail. Dans un culte, les gens, je ne sais pas, respirent. Et je crois que pour moi, je dirais que la respiration est sans doute une bonne idée. Moi j'aime bien le mot conspiration. Alors nous sommes des conspirateurs. C'est quelqu'un qui me l'a dit en Angleterre récemment. Joignez-vous au groupe de conspirateurs. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire respirer avec, conspirer. Hein? Et nous sommes des gens qui respirent avec Dieu qui est souffle. Même le son de Yahweh apparemment ressemble au mot pour souffle. Donc Dieu veut nous insuffler la vie, veut nous insuffler aussi des démarches, des nouveaux détours, des nouveaux cheminements dans notre vie, à nous d'aspirer ce nouveau souffle et devenir des conspirateurs avec Dieu.
Les églises chrétiennes, bon, je dis les églises qui pourront s'intéresser à vous inviter, comment parviendront-elles à le faire? Est-ce que vous avez un site disponible?
Oui, alors le site, on l'a évoqué, c'est degres, c'est-à-dire degr.es, un site espagnol, assez ludiquement. Sinon, vous pouvez me joindre sur johnfeatherston.com, J-O-H-N, Featherston, FEATHERSTONE.com, ou faire Google et vous allez tomber fatalement sur moi. Il n'y a pas 36 John Featherston musiciens. Il y a certains John Featherston, mais en France, je pense que je suis le seul.
Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur pour les prochains mois ou années, si Dieu vous prête la vie?
Voilà, alors je suis en permanence tiraillé par cette guitare, cette corde. Cette guitare que j'ai fait faire il y a 6 ou 7 ans de cela, qui est un véritable bijou. Désolé que l'image ne passe pas dans les ondes, mais peut-être que sur le site on pourrait la voir. Mais c'est surtout pour l'entendre. C'est un instrument qui a une tessiture étendue, donc d'un la grave jusqu'à un mi contre mi. C'est assez impressionnant. Et composer là-dessus, ça c'est quelque chose. Je viens de faire un arrangement d'un Negro Spiritual, Swing Low Sweet Chariot, qui fait allusion, je pense, au moment où Ellie est partie. suite au décès d'une amie. Et je me suis dit, ok, quelque chose de recueilli, quelque chose de sobre, mais en même temps, ça décoiffe à la fin. L'idée de partir dans le chariot, etc. Enfin, de char, plutôt. Donc ça, cette semaine qui vient, j'ai une amie qui vient enregistrer chez moi un album de quelques titres pour l'instant. Ensuite, j'ai ce projet de direction musicale l'année prochaine qui reste top secret. Voilà. Donc continuer avec la force que Dieu me donne. Dans les différents domaines où il me permet d'exercer, en partant du guitariste tout terrain jusqu'au créateur de spectacles, jusqu'au créateur de musique pour grands événements. Voilà, donc c'est divers et varié. On a pris récemment, mon épouse et moi, une feuille de papier A4 pour essayer de voir notre orientation, notre direction pour l'avenir. Ensuite, on a couvert ce papier-là, on a dû utiliser une autre feuille A4 parce que tout ne rentrait pas là-dessus. Mais en voulant simplifier, on ne peut pas. Il y a tant de domaines dans lesquels on croit et on est très actif. Donc, que Dieu décide quel est le domaine dans lequel il veut nous voir le plus à l'avant pour l'avenir. Et
parmi tous ces domaines, j'étais très surpris de découvrir que vous êtes aussi ingénieur du son, si j'ose dire. Vous avez votre home studio et c'est là que nous sommes actuellement. Ouais. Et la sonorité, quand j'écoute le son, c'est de la perfection. Ouais.
Disons, oui, ça se prête à la prise de son pour des instruments et des voix seules. On ne peut pas avoir tout un orchestre symphonique, bien sûr, là-dedans. Mais c'est vrai que là, on est en plein centre de Paris et pourtant bien protégé soniquement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui voulait démolir le bâtiment à côté. Enfin, apparemment, je pense qu'il ne faisait que percer quelques trous. Mais tout passe par les murs. Mais non, on est très heureux d'être là et on se sent très béni.
Et votre dernier mot, John Featherstone, pour conclure.
Mon dernier mot, c'est que je suis très heureux d'être toujours là. Je faisais allusion à ça au début. La grâce de Dieu a été notre soutien au cours de ces années. Et je suis ce que je suis, on dit en anglais, verru et tout. Donc avec tous les défauts que je peux avoir. La biscornitude, si ça peut se dire, sinon je viens d'inventer le mot, d'un artiste fait que quelquefois on n'est pas forcément toujours compris, on s'exprime mal, on est un peu exagéré quelquefois dans nos propos. Mais c'est ça qui fait que j'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire, si je reviens à cette notion de prophète, je ne réclame pas, mais il y a un peu de ça dans mon travail quand même. Est-ce que Jérémy aurait été un bon membre de comité? Je ne crois pas. Et donc, pour nous les artistes, effectivement, on n'est pas forcément toujours très facile à vivre, mais on croit à 100% dans ce qu'on fait, et par la grâce de Dieu, on va aller jusqu'au bout.
John Featherstone, la radio chrétienne Ebenezer International, vous remercie de lui avoir consacré ce moment précieux de votre temps et vous souhaite une bonne continuation.
C'est gentil, et merci beaucoup et bravo pour ces émissions qui parlent de manière interpellante de la foi chrétienne. Alors bravo à toi, bravo à vous, pardon, c'est la première fois que je dis tu. Alors voilà, ça, c'est la preuve que la relation entre nous va en grandissant.
Amen. Que Dieu bénisse cette relation et surtout le ministère qu'il vous a confié, qu'il t'a confié.
Très bien.
Allez, merci. Au revoir.
Au revoir.
Et pour la dernière pause musicale, nous vous proposons ce morceau instrumental de John Featherstone sur sa guitare à 7 cordes, intitulé Isthmus. Bonne écoute.
Ecclesiopod, un programme qui vous conduit au cœur de l'Église de Jésus-Christ sur la RCEI, votre radio.
Cette édition spéciale d'Ecclesiopod, dont l'objectif principal était de permettre à notre invité de nous parler de son ministère et plus particulièrement de son programme de chants de louange dans les églises que vous trouverez sur son album Degré. Je crois que vous serez nombreux à l'inviter avec son équipe pour vous entraîner dans cette louange profonde et sincère avec comme toile de fond les Saintes Écritures. Puisque la louange n'est pas une faveur que nous faisons à notre Dieu, mais plutôt quelque chose que lui doivent toutes ses créatures.
Et permettez-moi, juste avant de tourner la page, de remercier sincèrement notre invité, l'artiste John Featherstone, ainsi que son épouse et collaboratrice Marie Featherstone, pour l'accueil qu'ils nous ont offert. Je prie pour que l'écho de leur ministère aille au-delà même des continents et qu'il contribue à la gloire de notre Créateur.
Et à vous qui étiez branchés dès le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre intérêt croissant et vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de Ecclesiopod.
C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, accompagné de
Gerline Doristil,
qui ensemble vous disons merci et au revoir. C'était Ecclesiopod, le programme qui vous conduit au cœur de l'Église de Jésus-Christ. Ecclesiopod, sur la RCEI, votre radio.
Fasse grâce que